RFI.
Alors, on dit quoi ?
Hello les amis, alors on dit quoi revient cette semaine pour un numéro consacré aux études après le bac. On en profite avec la rentrée qui arrive bientôt. Études courtes ou études longues, à l'université, au lycée ou dans une école spécialisée, le choix des études supérieures nécessite de bien s'informer et de réfléchir à son projet professionnel. Alors comment bien se préparer à l'orientation post-bac ? À qui s'adresser ? Y a-t-il des outils, des solutions permettant de mieux s'orienter ? Des questions encore et toujours, mais nous tenterons d'y répondre pour vous aider dans ce choix qui n'est pas anodin. Au programme également d'Alors on dit quoi, rencontre avec Mamadou Falassa Sidibé, président de l'Association des étudiants maliens d'Île-de-France. Il nous expliquera comment il accompagne les jeunes étudiants qui arrivent ici en France. Et bien entendu, on écoutera de la musique que j'ai choisie pour vous faire un peu bouger ce samedi matin, sans oublier la minute culture d'Anna. Je vous propose de débuter dès maintenant. Angata, c'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Jaranjay.
Et sans plus tarder, je vous présente les deux invités qui vont prendre part au débat du jour. Bonjour et bienvenue à Afi Afoya.
Bonjour.
Afi, vous êtes étudiante en gestion des organisations à Reims en France.
Oui.
Bonjour également à Tiefing Sissoko, qui est docteur en sciences de l'éducation, enseignant à l'Université des Lettres à Bamako et à l'Université Paris-Est. Bonjour.
Bonjour Jarandiaï et merci de votre invitation.
Eh bien, plaisir partagé. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Une licence ou un DUT à l'université, un BTS au lycée, une école spécialisée pour choisir ses études après le bac. Il faut savoir ce qui correspond à sa personnalité et à son projet professionnel. Encore faudrait-il avoir des réponses aux deux derniers points. Ces problématiques, en tout cas, ont été soulevées par notre correspondant au Tchad Junior. On écoute son reportage.
Après l'obtention de leur bac, les jeunes Tchadiens ont du mal à choisir leur filière d'études. C'est là à cause du déficit des conseillers d'orientation universitaire et professionnelle dans les pays. Souvent, ceux qui tentent de faire un choix s'embrouillent et le font par civisme ou par snobisme. Tel est le cas de ceci.
Je suis titulaire d'un bac D. J'ai programmé depuis la première de faire la géologie. C'est ma première pensée. Arrivé en terminale, je me suis localisé sur la matière statistique et la chimie organique. Et plus particulièrement, aujourd'hui, je pense donc continuer mes études supérieures en chimie organique.
Je suis titulaire d'un bac D. Étant tout petit, mon rêve était de devenir un médecin. Arrivé en troisième, il y avait l'un de mes professeurs qui m'a tellement encouragé dans ce domaine. J'ai voulu faire aussi l'informatique et je suis dans l'embarras des choix comme ça.
Moi, j'avais deux options. La première était de faire chambre de commerce et la seconde, c'est l'ENAM, oui.
Pour aider les bacheliers et les étudiants à faire un choix de leur domaine d'études de façon sûre, Christian Madé, étudiant en droit notarial, a créé une plateforme numérique dénommée Talim, qui veut dire « viens apprendre en arabe ». Il explique les raisons de la création de cette plateforme et son fonctionnement.
On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes étudiants vont dans les villes où ils n'ont pas assez d'informations sur les universités, sur le coût de vie, sur le logement et comment s'y faire. Donc voilà, nous venons mettre à leur disposition les informations sur les universités, comment faire pour s'inscrire dans une université dans tel pays, puis-je avoir les informations nécessaires si je veux, par exemple, entrer directement en deuxième année, en troisième année ou bien en master. Donc voilà, nous mettons tous ces dispositions gratuitement pour les étudiants afin qu'ils puissent être également mieux orientés. Et également, nous avons nos bureaux où nous recevons les étudiants gratuitement afin de parler avec eux, afin de les proposer des tests et des fiches d'orientation qui vont nous permettre d'avoir derrière un aperçu de leur demande. Nous lui proposons des fiches, soit par mail, soit il peut télécharger sur notre site également, ou bien sur Facebook. Une fois que la fiche est remplie, nous prenons un deuxième rendez-vous avec l'étudiant afin de parler avec lui, voir ses motivations personnelles, voir ses atouts, voir également quelles sont ses difficultés.
En plus du manque d'informations sur les filières d'études, les jeunes Tchadiens doivent faire face à la pression des parents qui leur imposent un choix. Kodiante Priska, la vingtaine révolue et étudiante à l'université de N'Djamena, en est une victime.
Depuis l'école primaire, j'avais décidé de faire le droit. Et quand j'avais obtenu mon bac, bon, moi, c'est vraiment obstiné de ne pas me laisser faire le droit. Suite aux mauvais conseils des de son petit frère. Dès elle dit comme science de l'éducation est une filière nouvellement créée, pour elle ça peut me permettre de vite trouver un emploi. Et arrivé là-bas, j'ai vu que comme c'est pas ma vocation, parce que le droit était vraiment ma vocation depuis des bas âges, j'ai voulu être une avocate. Quand j'ai su que ça n'a pas tenu, je ne comprenais pas ce que je faisais en sciences de l'éducation. Je voyais tout est compliqué devant moi. Je suis obligée de reprendre encore la première année en droit.
C'est justement un comportement auquel Christian, à travers sa jeune plateforme, veut s'attaquer.
Beaucoup de parents imposent leur choix à l'enfant, et ce qui fait que l'enfant n'est pas épanoui lorsqu'il fait les études après le bac. Il fait plus les études pour les parents que pour lui-même. Voilà. Nous voulons que les gens puissent être libres de choisir des formations adéquates, des formations, par exemple, qui recrutent. Donc voilà, si un étudiant veut faire de la mécanique, qu'il soit libre, non, qu'il puisse se voir imposer un autre choix. Et voilà, nous voulons également miser sur ces métiers, les formations professionnelles, parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce que les jeunes, ils font presque la même chose. Et au final, comme il n'y a pas assez de recrutement, ce qui cause un problème. Nous voulons avoir des profils diversifiés, avoir des jeunes qui font toutes les formations, des jeunes hommes comme des jeunes filles capables de relever ces défis. Nous sommes là pour aider à l'étudiant afin de le mettre en face aux réalités auxquelles il va faire après le bac. Donc voilà, l'étudiant reste libre de choisir le métier qu'il veut faire ou de choisir la formation qu'il veut faire. Nous sommes juste là pour parler avec lui, pour le conseiller, pour l'orienter, pour lui dire quelles sont les meilleures options ou quelles sont les solutions les plus abordables pour lui.
Talib ne compte pas s'arrêter à ce niveau. Elle a une grande ambition et son objectif est doté d'un regard continental.
L'objectif de Talib est d'atteindre toute l'Afrique d'ici 2023 ou plus tard 2024, ainsi permettre à tous les étudiants de tous les pays africains d'être connectés, également de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a au Maroc, qu'est-ce qu'il y a au Tchad, qu'est-ce qu'il y a au Rwanda, qu'est-ce qu'il y a au Sénégal. Donc voilà, l'objectif de Talib, c'est de réunir toute l'Afrique autour d'une plateforme en ligne et d'une application mobile afin de garantir une meilleure qualité d'information et d'orientation.
Choisir un domaine de formation universitaire ou professionnelle est un exercice crucial dans la vie d'un jeune, car son avenir en dépend. Mais en quoi faut-il qu'il y ait des informations nécessaires, disponibles et accessibles? C'était Bikoutou Junior pour Alors on dit quoi, RFI.
Merci Junior. Alors Afi, quand vous entendez dans le reportage des jeunes qui disent qu'ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, vous vous retrouvez dans ce discours ou pour vous c'était plutôt la galère lors de l'orientation?
Moi c'était un peu compliqué, très compliqué, parce que j'ai déjà au Togo, j'ai eu mon bac au Togo et on n'a pas, je pense comme au Tchad, de système d'orientation bien établi comme ici. Donc c'est la famille, les amis de la famille qui décident, et surtout qu'on a son bac un peu jeune, ça complique encore.
Alors vous avez eu votre bac jeune?
Je l'ai eu à 16 ans, donc c'est les amis à ma mère qui étaient au devant de la décision.
Et donc on a entendu parler aussi de la pression de l'entourage, des professeurs, des parents, on a eu l'exemple dans le reportage. Donc que pensez-vous de ce cas de figure, vous qui l'avez vécu?
C'était pas très contraignant pour moi parce que voilà, j'ai fini par aimer, je fais entre griffes, aimer le droit. On m'a dirigé vers le droit parce que j'étais bien en littérature et voilà. Ma mère, elle travaille à l'université, donc j'avais pas trop le choix, je pouvais pas sécher les cours non plus. Donc j'ai fini par m'appliquer et puis à réussir à avoir ma licence.
Alors on reviendra bien sûr sur votre parcours, Afi. Juste avant, j'aimerais demander à Tiefing ce que lui pense justement de la pression des parents qui veulent s'imposer dans ce choix crucial de leur enfant parfois.
Ben c'est vrai que c'est très théorisé un peu tout ça, c'est la survie du projet parental à travers l'enfant en fait, c'est-à-dire que les parents qui n'ont pas eu peut-être une chance d'études vont poursuivre ce projet parental à travers le parcours des enfants. Et c'est vrai aussi que beaucoup de familles notamment mettent beaucoup d'accent sur l'éducation, sur le parcours d'insertion sociale et professionnelle des enfants, et donc du coup leur inquiétude, leur crainte aussi se retrouve dans en tout cas dans la construction du projet d'études de l'enfant. Et je pense que ces étudiants qui commencent les études, eh bien ils ont pas mal de pression des parents, vous l'avez évoqué, mais aussi parfois pression même des acteurs de l'orientation, puisque tout se passe comme si le jeune doit réussir son parcours d'orientation et doit savoir véritablement en intégrant une université, ben, la bonne filière qui s'adapte parfaitement à son parcours. Et ben, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Quand on regarde, j'ai eu l'occasion et dans la littérature de voir aussi le parcours de beaucoup de jeunes dans l'université de Metz, les jeunes se cherchent et construisent progressivement leur parcours d'orientation. Cela veut dire que l'orientation n'est pas une étape décisive, définitive, mais que l'orientation doit être pensée de façon continue
et
progressive.
Mais quand on voit qu'il y a des jeunes de 16 ans, comme Afi par exemple, qui ont leur bac tôt, c'est difficile de leur demander quelle filière choisir dès l'obtention du bac. Et puis surtout, il faut avouer que pour certains étudiants africains, il y a une forte pression de réussite dès le départ finalement. Et les parents qui s'imaginent que le droit peut ouvrir certaines portes. Tiffing, vous, qu'est-ce qui vous a influencé dans ce choix après avoir obtenu votre bac en sciences, c'est bien ça?
Oui, alors qu'est-ce qui m'a influencé? Moi je pense que mon parcours ça illustre parfaitement ce que nous sommes en train de dire ici. Au début, j'ai fait le bac au Mali et quand je suis venu en France, je me suis inscrit dans une filière parce que j'avais rencontré quelqu'un qui pouvait m'inscrire dans une filière. Et cette personne m'a inscrit dans la filière qu'elle pensait la mieux. Là où il y avait de la possibilité d'inscription. Et donc c'est comme ça que je suis venu.
Donc un choix finalement par opportunité.
Ben, c'est un choix que j'ai découvert sur le papier quand j'ai vu que j'étais inscrit en histoire. J'ai dit histoire, ben pourquoi pas. Donc quand je suis venu en France, après je suis allé suivre un semestre de d'histoire. Et à l'époque, dans le monde universitaire, à l'époque, si vous voulez, je crois que ça existe encore aujourd'hui, il y a des unités de découverte qui permettent aux étudiants qui ont peut-être fait des mauvais choix de pouvoir, en fonction de ces unités de découverte, de pouvoir poursuivre vers des filières de leur choix.
Différentes,
pour le coup.
Finalement.
Différentes, donc pour voir une autre orientation. Et donc, ça a été mon cas. Et tout au long de mon parcours, je crois que c'était ça. Ce que je suis devenu aujourd'hui, si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire dans la vie? J'aurais dit non, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est de s'engager dans les études et de réussir les filières.
On va revenir sur votre parcours, vous aussi, Tiefi. Mais on a parlé aussi dans le reportage du déficit, finalement, de conseillers d'orientation. Donc ça, c'était pour le cas du Tchad, lorsque l'a évoqué notre correspondant Junior. Est-ce que c'est le cas aussi également au Mali? Est-ce que vous, avant de faire le choix d'histoire, donc pas du tout, vous avez imaginé consulter quelqu'un, un conseiller d'orientation, par exemple, au Mali?
Oui. Alors, à l'époque, ça n'existait pas. Et je crois qu'encore aujourd'hui, les conseillers d'orientation n'ont pas de contact direct avec les élèves. Ça veut dire que dans ce pays, au Mali, les orientations, que ça soit après le collège, donc l'équivalent du collège ici, l'orientation dans le lycée professionnel ou le lycée général s'effectue par les conseillers qui regardent le dossier et font en fait l'orientation de cette manière. Et après, à l'obtention du baccalauréat, bien, c'est le même schéma qui se présente où en fait les jeunes vont être orientés dans certaines filières sans que il y ait véritablement un contact avec un conseiller qui existe, mais ces conseillers travaillent sur des dossiers. Aujourd'hui, oui, je crois que depuis 2-3 ans, le Mali a évolué là-dessus, en mettant en place un dispositif d'orientation. Mais ça reste sur le même schéma antérieur, c'est-à-dire une étude, une réflexion sur le dossier. Donc, les conseillers d'orientation n'existent pas, et donc du coup, les familles vont s'appuyer sur la connaissance d'amis ou le réseau informel qui peut tantôt orienter dans une filière déterminée ou plutôt dans l'autre, en raison des représentations qu'ils se font des débouchés. Donc parfois, dans les filières, par exemple, juridiques, où on se dit peut-être on peut être avocat ou juge ou magistrat, ou en tout cas avoir une situation confortable, eh bien ce sont ces idées qui orientent les personnes à choisir ces filières. Et ça, c'est un danger parce que c'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque, c'est-à-dire on va aller dans une filière parce qu'on a l'impression que ça va déboucher sur des emplois spécifiques.
Alors qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres secteurs porteurs. On parle beaucoup du digital ou encore de l'agriculture, des secteurs qui sont en plein mouvement, notamment en Afrique. Et on va justement prendre le témoignage de nos auditeurs qui nous appellent aujourd'hui. On a Erin qui nous appelle. Erin, bonjour.
Bonjour.
Erin est avec nous, fraîchement diplômée d'un bac scientifique. Alors Erin, que faites-vous aujourd'hui? Quelle filière allez-vous faire après l'obtention de ce bac?
Alors là, je viens tout juste d'entrer en licence internationale d'économie et gestion à l'Institut catholique de Lille. Donc, c'est une université privée à Lille. Donc maintenant, j'habite seule puisque j'ai eu mon bac en région parisienne et maintenant, j'habite à Lille.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à finalement choisir cette licence en éco-gestion ?
Alors, je voulais faire une école de commerce. Moi, ça a toujours été mon rêve. Mais pour y entrer, il fallait faire soit une prépa d'abord, soit une licence. La prépa, c'était pas forcément le meilleur pour moi. C'est une formation qui demande beaucoup de travail et où il y a une forte pression exercée sur les élèves. Donc j'ai préféré une licence, mais il fallait que ça soit une licence qui soit quand même qui ouvre le plus de portes possible, aussi bien en France mais aussi à l'international.
Et Erine, justement, après la licence, est-ce que maintenant vous avez déjà votre plan, on va dire, professionnel qui se dessine ? Quelles sont vos attentes finalement par rapport à cette filière, à cette licence que vous avez choisie ?
J'ai quelques plans, j'ai déjà 3 idées en tête, donc j'aimerais bien travailler dans la finance ou le marketing ou le développement d'entreprise. Ça permet de travailler dans beaucoup de pays dans le monde. Et puis, après, j'aimerais bien la licence, intégrer une grande école de commerce française. Mais j'ai pas encore d'idée précise. Et j'attends justement de la licence qu'elle puisse me faire découvrir tous les métiers possibles pour que je puisse faire un choix avec connaissance de cause.
Et est-ce que votre entourage vous a influencé dans votre choix ou alors est-ce que vous avez consulté plutôt un conseiller d'orientation pédagogique ?
Alors, je n'ai pas consulté, mais sans le vouloir, involontairement, j'ai eu l'influence de mon entourage, puisque j'ai des oncles, des tantes, les amis de mes parents qui sont dans ce milieu-là. Et en entendant les discussions, en voyant aussi leur train de vie, ça attire et ça influence vers certaines voies. Mais après, je n'ai jamais eu de pression parentale pour faire un choix, même si c'est clair que mes parents préfèrent une formation qui reste scientifique, donc économie, gestion ou ingénierie, informatique, etc.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès, Erine, dans la suite de vos études. Merci. Et beaucoup de courage, parce qu'il en faut.
Merci beaucoup.
Alors, on dit quoi ?
Vous écoutez Alors on dit quoi, qui s'intéresse aujourd'hui à l'orientation post-bac. Si vous entrez à l'université, il va falloir vous débattre avec une centaine d'orientations possibles sans garantie de résultat. Et si vous optez pour une grande école, laquelle choisir ? Rien qu'en France, il existe plus de 60 établissements supérieurs de commerce et près de 250 écoles d'ingénieurs, sans compter qu'entre sciences humaines, langues et matières techniques, les sous-catégories et combinaisons possibles rendent le choix encore plus difficile. Alors, comment bien choisir sa filière ? Eh bien, on en parle avec nos invités Tiefing et Afi. Nos auditeurs sont également en ligne avec nous. Nous avons en ligne Abou Bakriba. Abou Bakri, bonjour.
Oui, bonjour Diara.
Alors, vous êtes étudiant en actuariat en France, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
Une filière bien spécifique que vous avez choisie vous-même. Comment vous êtes-vous retrouvé dedans ?
Alors, en fait, j'ai fait 2 années de classe préparatoire après avoir quitté le Sénégal. Et en fait, je n'ai pas choisi directement le métier. J'ai procédé par élimination parce qu'à l'issue des 2 années de classe prépa, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, mais au moins, je savais ce que je ne voulais pas faire.
C'est
je
un
voulais
bon
pas
début.
Faire, voilà. Je voulais pas faire tout ce qui a de rapport avec la physique, la chimie. Je ne voulais pas faire de l'informatique. Donc, il me fallait faire quelque chose qui a un rapport avec les mathématiques. Et donc, il me restait pas énormément de possibilités. Il me restait la finance, les statistiques, l'actuariat. Sachant que la finance, c'est un peu compliqué parce que c'est soit les très grandes écoles polytechniques, MCAE, qui sont très difficiles d'accès, ou des écoles privées. Donc, j'ai été mis en difficulté de ce point de vue-là. Et du coup, j'ai opté pour l'actuariat qui, finalement, n'était pas très éloigné de la finance.
Est-ce que, finalement, l'actuariat correspond à vos attentes ?
Oui, ça correspond à mes attentes, en termes, en tout cas, de contenu. Seulement, au cours de mes 3 ans de formation en actuariat, j'ai développé une nouvelle vision, j'ai nourri d'autres ambitions qui font que peut-être que dans quelques années, je travaillerai dans un domaine autre que l'actuariat.
Ah, mais dites-nous lequel, dans quel domaine vous souhaitez évoluer finalement?
Alors, donc pour tout vous dire, je suis sur le chemin du retour, donc vers le Sénégal. Je n'ai pas dit je suis sénégalais. Et donc, je compte pour rentrer dans mon pays pour entreprendre.
Donc, vous allez arrêter les études ou après
dans l'actuariat.
Donc, vous allez arrêter les études finalement?
Alors là, en fait, je suis en train d'achever mon diplôme.
D'accord.
À l'ISFA, donc à Lyon. Et je vais rentrer au Sénégal pour mettre en place une entreprise dans un autre domaine que l'actuariat.
Eh bien, on vous prendra pour une autre émission alors à ce moment-là. En tout cas, bon courage à vous, Bakri.
Merci beaucoup.
Alors, Afi, vous avez entendu le parcours de d'autres jeunes qui, eux aussi, se cherchent ou continuent de chercher, ou à la rigueur réfléchissent un peu et puis finalement se disent que il y a d'autres solutions, il y a d'autres voies. Finalement, c'est en pratiquant qu'on arrive à choisir, à faire son choix. Oui. Le projet professionnel se construit au fur et à mesure.
C'est rassurant de savoir ça parce que quand on est tout seul chez soi, on se pose beaucoup de questions. On se dit est-ce que c'est moi qui je suis en train de perdre du temps, je ne sais pas encore ce que je veux faire, je change. J'ai déjà entendu ça en entretien, mais mademoiselle, vous avez fait du droit, après c'est gestion, et maintenant vous nous parlez de Sciences Po, vous êtes pas très stable. Et ça fait un peu mal, quoi. Ça fait réfléchir.
Pourtant, c'est pas un signe d'instabilité, justement.
Je le considère comme c'est de l'évolution. J'ai commencé avec du droit, après, voilà. Et c'est rassurant d'entendre d'autres personnes suivre le même parcours.
Vous vouliez réagir, Tiffy?
On peut comprendre parfaitement la pression liée à l'orientation, puisque aussi on s'est rendu compte que ceux qui réussissaient à l'université, c'était ceux qui avaient choisi une filière en phase avec le parcours antérieur. Et donc, à partir du moment où on choisit une filière qui s'inscrit dans une continuité, on s'offre plus de chances de réussir la filière qui est choisie. Par exemple, quelqu'un qui a effectué un parcours en bac scientifique et qui se retrouve dans un parcours littéraire a beaucoup de temps à mettre pour favoriser son acculturation aux études universitaires. Et donc, ceux qui s'inscrivent dans une continuité ont un peu moins de temps à consacrer à l'acculturation, en tout cas à l'apprentissage de son métier d'étudiant. C'est pour cette raison aussi qu'on comprend la pression de bien choisir son orientation et de bien choisir les filières qui vont être en phase avec son parcours. Mais au-delà de ça, les reportages que nous avons pu écouter montrent parfaitement cela, que la construction de son parcours, ça se fait progressivement en affinant de plus en plus. Et je crois que les Allemands l'ont bien compris quand on va chez nos voisins ici en Allemagne, au moment de la fin du baccalauréat et l'entrée dans la vie universitaire, une bonne partie des étudiants, environ 60% des étudiants, font une année de césure, ce qu'ils appellent une année un peu sociale.
Une année blanche, quoi.
Une année sociale où ils vont s'engager dans des œuvres caritatives, vont découvrir différents environnements pour ensuite progressivement se choisir une orientation. Et en se choisissant une orientation, ils vont suivre des études qui sont en phase avec ses envies, avec ses passions, avec ses orientations.
Afi, ça vous tenterait, vous, une année blanche, une année de césure pour réfléchir?
Justement, par rapport à ça, l'année passée, j'ai fait un service civique de 9 mois dans un collège. Et effectivement, cette expérience m'a beaucoup aidée. Déjà, j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont fait comprendre, mais ce que j'avais comme talent des choses comme ça. Et j'ai eu aussi l'opportunité, après ce service civique-là, d'être admise à l'Institut de l'engagement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une superbe organisation qui donne aux volontaires en service civique la chance de présenter des projets, soit de formation, reprise de formation du coup, de recherche d'emploi ou de création d'activités. Et ils sont soutenus par rapport à leur orientation financièrement. Et oui, donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'une année pour prendre le temps de réfléchir et de peaufiner
Afi, après cette expérience de 9 mois où vous êtes détaché de l'université, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez où vous souhaitez vous diriger?
À peu près.
Ça reste encore ça un peu aidé. Flou.
Oui, c'est parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, du coup.
Mais il faut les exploiter, et tant mieux. Aujourd'hui, je pense que le monde du travail cherche beaucoup de personnes polyvalentes, et puis on est amené aussi à jouer plusieurs métiers, à pratiquer, pardon, plusieurs métiers, donc faut pas s'inquiéter. J'ai vu qu'il y avait des coachs privés qui essayent d'orienter les étudiants, qui essayent de déterminer un peu qui on est pour faire prendre conscience des lacunes, des désirs, des atouts, des choses comme ça, pour aider en tout cas à mobiliser tous nos talents pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Que pensez-vous de ces méthodes, par exemple, Tiefine? Est-ce que c'est utile aujourd'hui? Est-ce que ça a un intérêt particulier?
Mais dans le système éducatif, il y a pas mal de méthodes aussi qui existent, qui permettent justement de connaître, de faire un bilan sur ses penchants, sur ses orientations, sur les environnements qui peuvent être plutôt confortables pour la personne. Et en fonction de ces bilans, qui peuvent être de l'ordre de la psychologie et autre chose.
J'ai vu qu'il y avait des logiciels, pardon de vous couper, aussi des logiciels d'orientation. Enfin, il y a pas mal d'outils.
On peut parler
finalement
de Passe à Venir, un logiciel Info Horizon aussi, qui est un logiciel qui est utilisé dans l'établissement scolaire. Passe à Venir, Info Horizon. Donc Info Horizon, si vous voulez, en fonction d'un test, des batteries de tests que vous proposez, va vous dire quels sont les types de filières que vous pouvez suivre. Mm-hmm.
Est-ce que c'est fiable selon vous?
Alors moi, je les ai utilisés dans le cadre des projets comme ça pour les étudiants, dans mes interventions en projet personnel et professionnel des étudiants. Donc parfois ça donne des orientations, ça donne des environnements de possibilités, ça donne des indications sur les métiers attachés à des filières. Donc en termes d'accès à l'information, je trouve que c'est fiable, mais on peut pas tout mettre sur ces logiciels psychologiques avec une automatisation de l'information. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus dans la gestion du big data, de l'information massive. Comme vous l'avez dit, il y a pas mal de filières universitaires en France, il y a pas mal de parcours possibles, et il y a des perspectives qui sont presque infinies. Et donc, au regard de tout cela, les jeunes étudiants peuvent être un peu perdus, puisqu'ils n'arrivent pas à savoir véritablement quelle filière je peux suivre, comment je peux suivre ces filières.
Et quand ils l'ont choisi aussi, il s'avère qu'ils se sont parfois trompés. Du coup, il y a beaucoup de réorientations.
Il y a des réorientations, et c'est peut-être l'une des remarques qu'on peut faire par rapport au dispositif que le gouvernement français a mis en place, qui est Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est très intéressant dans l'idée, c'est-à-dire de permettre aux jeunes bacheliers de pouvoir interagir avec le monde universitaire avant de s'inscrire dans les filières, ce qui permet de s'informer sur les taux de réussite et autre chose. Mais après, la limite, c'est que aujourd'hui, Parcoursup ne permet pas aux étudiants de se réorienter une fois qu'ils ont fait l'inscription, puisque une fois que les choix sont effectués, c'est validé et c'est clos.
On a un dernier auditeur en ligne avec nous, Itoko, qui détient un bac ES, si je ne me trompe pas. Bonjour Itoko.
Bonjour.
Alors, dites-nous, qu'avez-vous fait après son obtention de ce fameux bac?
Du coup, moi, après mon bac ES, j'ai commencé à travailler directement. Parce que j'aimais bien l'école, mais je me disais, rentrer dans le mode professionnel juste après l'école, je me disais, pourquoi pas. Mm-hmm. Du coup, j'ai commencé à travailler dans la restauration, à Papier Brutamur. Enfin, ça me plaisait bien, le fait de vendre un peu les produits, d'être au service de la clientèle, c'est quelque chose que j'appréciais fortement. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer là-dedans? Du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait un BTS, Management des Unités Commerciales, en alternance avec cette société-là dans le sud de la France. Mon contrat avec eux a duré 6 mois, parce que voilà, ils ont dû fermer la société. Du coup, j'étais contraint de revenir sur Paris. Et de là, j'ai cherché un peu des boulots à droite à gauche. Du coup, j'ai fini par être VTC, transport de clients sur Paris. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et j'aimais bien, voilà, on avait le service client. On avait le service avec la clientèle. On avait, voilà, le fait d'échanger aussi avec le client, c'est quelque chose qui me plaisait, en fait. Et l'automobile, moi, je m'en renseignais pas mal dessus aussi. Du coup, je me suis dit, BTS, c'est quelque chose qui me convenait. Du coup, je me suis relancé dans le BTS. Et du coup, là, ce que je fais actuellement, c'est que je fais un BTS. Maintenant, c'est devenu MCO. C'est Management Commercial Opérationnel. C'est le nouveau nom de MUC. Et du coup, j'ai commencé le travail là lundi dans un centre automobile qui s'appelle Auto Center. Et c'est quelque chose qui me convient. Ça me plaît. simplement.
Donc finalement, vos choix de filière, là, MUC, Management des Unités Commerciales, grosso modo, c'est le bon choix.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et dans quelques années, on vous retrouvera dans une autre formation ou alors pour l'instant, tout va bien, on reste dans la vente.
Moi, ça me convient très bien ce que je fais en ce moment, mais peut-être d'ici 2 ans, soit continuer les études, enfin, continuer peut-être sur un master ou une licence, enfin, ça voit, ou soit voir avec des patrons si c'est possible de signer un CDI. Parce que ce que je fais actuellement, ça fait 3 jours que j'ai commencé le travail et ça me plaît, en fait. Le fait de recevoir les clients, le fait de, voilà, de les satisfaire au mieux, c'est quelque chose que j'aime bien.
Ah ben,
ça me plaît bien, ça me correspond. Eh
bien, tant mieux. Ça fait du bien d'entendre un bon choix, finalement. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Itoko.
Mais il n'y a pas de quoi.
Alors, on arrive déjà à la fin de ce plateau. Ça passe très vite, je le sais. Peut-être, Afi, revenir en quelques mots, peut-être sur le projet que vous avez monté pour justement conseiller les étudiants étrangers, juste avant de clore cette émission.
Justement, je parlais de l'Institut de l'engagement et le projet que moi, j'avais présenté à la fin de mon service civique pour être admise, c'est de créer une plateforme, un site pour conseiller, donner des astuces, faire créer du contenu vidéo, audio, article pour conseiller les étudiants africains qui arrivent.
Alors au niveau de l'orientation ou peut-être administrativement comme le fera je pense tout à l'heure on va écouter justement une interview avec le président de l'association des Baliens de France, ils aident eux aussi les étudiants quand ils viennent d'arriver en France. Est-ce que c'est ce type d'aide?
C'est un peu ça, lui. C'est un peu ça parce que c'est assez compliqué quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. On galère un tout petit peu et ça fait du bien de savoir qu'on peut se retrouver quelque part, même si c'est virtuel.
On peut échanger. En tout cas, bonne continuation, Afi.
Merci.
Le mot de la fin, peut-être Tiefing, dites-nous ce que vous diriez à nos jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être eu leur bac et qui sont un petit peu encore perdus.
Disons que de ne pas avoir peur, que rien n'est joué à l'avance et que tout est possible, l'univers des possibles reste à leur portée, à leur possibilité. Je saisirai quand même l'occasion pour dire 2-3 mots sur aussi ces initiatives qui sont en train de se développer pour aider les étudiants étrangers dans leur parcours en France. Si ces initiatives se développent, c'est parce que aussi, je crois, il y a un manque dans ce sens, un manque d'orientation, un manque d'accompagnement. C'est pas seulement dans l'accès aux études universitaires, mais c'est dans la poursuite de leur parcours de vie universitaire, de leur parcours de vie étudiante. Et je crois que ça, c'est important. Rien qu'aujourd'hui, avant de venir, j'ai une étudiante, Magata Yatasai, qui m'a appelé parce que elle ne parvenait pas à trouver une inscription à master à Paris 10 et qu'elle est en conflit avec l'équipe pédagogique. Elle a fait une licence honorable dans cet établissement en sciences. Et puis aujourd'hui, en fait, donc, elle n'a pas eu cette inscription et l'étudiante risque d'être pas renouvelée au niveau de son titre de séjour.
Étudiant, un vrai parcours de combattant. Alors, en tout cas, merci d'avoir échangé avec nous, Afi. Merci à vous également, Tiefing.
Merci de votre invitation.
Alors, on dit quoi ? Diaranjai.
Et la semaine prochaine, nous nous intéresserons à ces femmes qui font le choix d'évoluer dans le domaine scientifique. Dites-nous si vous aussi vous êtes tentée par cette spécialité. Appelez-nous au 33 647 740 742. Allez, on fait une pause musicale avec cette première chanson d'Andy featuring Coco Cora et leur son Angelina Jolie.
Angelina, Angelina Jolie. I could be your personal, personal bodyguard. Yeah, if you my Angelina, Angelina Jolie. I could be your personal, personal private. Yeah, yeah.
Boy, when you come around, everything I'm pressing, baby, make you take a easy. You don't wanna hurt my feelings. Yodi yodi, it's your love now, one in a million. Oh, you know, we must go to church on Sunday. Oh, baby, love me for life, oh, for life.
Yeah. Angelina, Angelina Jolie. I could be your personal, personal bodyguard. Yeah, if you my Angelina, Angelina Jolie. I could be your personal, personal Brad Pitt. Yeah, yeah.
Megemege Ego Ibo Baby give me shito Ise atadako Stay with me oh baby Stay with me Shady Coco be my lover yeah. Personal, personal bodyguard, yeah. Baby, you my Angelina, Angelina Jolie. I could be your personal, personal Brad Pitt, yeah.
C'était Andy featuring Coco Cora, Angelina Jolie.
Alors on dit quoi?
Notre initiative de la semaine est celle de Mamoudou Falassa Sidibé. Il est le président de l'association AMIF, l'association des étudiants maliens d'Île-de-France depuis 2018. Bonjour.
Bonjour. Bien.
Alors, nous sommes mi-septembre. Comment vous préparez la rentrée d'octobre, Mamoudou Falassa?
Alors, la rentrée, ça se prépare très bien. Donc, ça fait presque 2 semaines que certaines universités ont commencé. Et la plupart ont commencé cette semaine. Donc, nous, on a été sur les sites. Pour essayer d'accompagner un peu les étudiants comme chaque année.
Vous êtes étudiant en master de littérature française et francophonie. Est-ce que ça a été un choix évident pour vous?
Alors, c'est la suite logique de ce que j'ai fait en Afrique. Parce que, bon, moi, j'avais déjà commencé ma licence au Mali, dans la littérature générale. Donc, quand c'est arrivé ici, j'ai commencé en licence D à Paris 8.
Donc, vous saviez déjà, en fait, ce que vous vouliez faire?
Oui, oui. Pour moi, c'était plutôt une continuité.
Vous avez débuté en littérature?
Oui, j'ai une licence en littérature générale à l'Université de Bamako. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait la deuxième année de licence et voilà, en littérature française et francophone.
Et vous comptez faire quoi comme métier?
Alors pour moi, ce sera plutôt l'enseignement supérieur.
Donc l'enseignement supérieur, vous allez enseigner aux autres tout votre savoir, c'est bien ça?
Effectivement, on les partage toujours.
Alors, je vais faire rire nos auditeurs bambara. Un adage dit « Konokulo ndjelende bihifo ». Alors, est-ce que c'est ça déjà?
Alors, c'est presque juste. En fait, c'est Konoklu Djelene Bifo. C'est comme quand on voit en fait, une foule d'oiseaux qui volent, il y a un bruit qui va avec. Donc, ce bruit-là, c'est ce qu'on essaie de traduire un peu vu. Donc, en gros, c'est l'union qui fait la force.
L'union fait la force, d'où la création de l'association, la AMIF.
C'est ça, effectivement.
Parlons justement des activités de cette association. Vous avez pour mission d'aider les jeunes Africains qui arrivent pour la première fois à étudier en France.
Effectivement. Donc, l'association, de manière, dans l'ensemble, ça signe comme objectif accompagner les étudiants, aider les étudiants aussi à choisir les formations souvent. Et ensuite faire des initiatives qui font en sorte que les étudiants maliens qui sont dans la région Île-de-France puissent se regrouper, faire des choses ensemble.
Et nous, la thématique de l'émission, c'est justement l'orientation post-bac. Est-ce que vous êtes confronté à des étudiants qui veulent changer de filière?
Oui, ça arrive, hein, parce que voilà, il y a des gens qui sont conscients qu'ils ont fait des choix par défaut au niveau d'Afrique et que quand ils sont là et qu'ils savent qu'ils ont la possibilité de changer, ils essaient de saisir l'occasion. Donc nous, on les oriente vers les services de l'université qui sont chargés de ces questions-là. C'est CIOIP, c'est Services d'orientation et professionnelle. Et des inscriptions et aussi sur les plans professionnels. Parce qu'après les formations, on peut les accompagner aussi à trouver des stages et autres. Voilà.
Et au niveau de l'AMIF, quand un jeune étudiant arrive, il a déjà été orienté par Campus France, c'est bien ça, au niveau de son choix de filière?
Oui, en fait, il y a deux catégories d'étudiants qu'il faut distinguer. Il y a ceux qui ont eu leur visa à travers Campus France. Donc, ces gens-là, ils ont déjà choisi leur formation, ils ont leur université. Donc, quand ils viennent seulement, il faut qu'ils fassent l'inscription administrative. Il y a aussi une catégorie des étudiants qui sont arrivés, mais c'est après qu'ils vont décider de faire des études ici. Donc, ces gens-là doivent trouver une formation dans les universités. Donc, c'est eux qui ont plus besoin de notre accompagnement par rapport au conseil, voilà, sur les plans administratifs.
Est-ce que, par exemple, vous faites faire des tests ou des fiches d'orientation pour connaître les motivations ou les atouts des élèves, pour connaître un peu plus leur choix ou...
Alors, nous, on leur demande, en fait, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, voilà. Et voilà, en fonction des notes, bon, souvent, on sait que les notes sont souvent trompeuses. Et on trouve même par rapport à ce côté-là, les universités même peuvent se tromper en fait, en choisissant un étudiant parce qu'il avait plus de notes dans tel domaine. alors qu'on ne sait pas, voilà, quelles sont les circonstances qui ont fait en sorte qu'il ait eu plus de notes ici, en chimie, voilà, qu'en lettres. Donc, ce sont des choses qui sont
finalement, un élève qui est bon en maths avec 18 de moyenne ne sera pas forcément bon dans une filière scientifique.
C'est sûr, voilà, ça arrive souvent. Donc, en fait, nous, on leur demande qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, et qui, parce qu'à partir de là, c'est plus facile, en fait, de lire quelles sont les capacités de l'étudiant. Parce que quand il aime faire ça, il va se donner les moyens d'aller plus vers ça. Donc après, on va plus les conseille d'aller voir les conseils qui sont spécialisés de ces domaines-là. Comme ça, ça va nous décharger, en fait, par rapport à ces responsabilités-là.
Parce que vous, finalement, vous n'avez qu'un rôle de conseil en tant que grand frère, finalement. C'est mais ça. Vous n'avez pas la science infuse. Hein. Chacun fait son choix, finalement, d'orientation. Mamoudou Falassa, que souhaitez-vous livrer comme message aux jeunes bacheliers qui nous écoutent?
Alors, c'est plus c'est de voir un peu dans toutes les formations, peu importe la formation qu'ils ont déjà fait au lycée, ils peuvent savoir d'abord quelles sont les possibilités pour
poursuivre les études. Il y a tellement de choix, c'est difficile.
Donc, je pense que c'est au niveau de la France, sinon en Afrique, c'est plus automatique, en fait. Par exemple, on sait qu'un étudiant qui a un bac L, automatiquement, il va se trouver dans les formations droit, toutes les sciences sociales, en fait. Alors qu'ici, il y a plus de possibilités. Donc, du coup, ce côté-là, il faut qu'ils essayent de voir, en fait, s'ils viennent ici, d'aller rencontrer les conseillers pédagogiques de Campus France. Donc, ces conseillers sont spécialistes de ce domaine-là et ils peuvent les orienter en fonction de ce qu'ils souhaitent faire plus tard.
Vous avez déjà eu à consulter ces personnes de Campus France, ces conseillers pédagogiques?
Comme je suis passé par Campus France aussi, donc j'ai rencontré les conseillers pédagogiques de Campus France. Et leur rôle, c'est d'orienter les étudiants. Et donc, ils sont là pour vraiment savoir ce que l'étudiant souhaite faire. Il a les bagages nécessaires pour le faire. Ensuite, c'est cohérent par rapport à sa formation initiale.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Mamadou Falassa Sidibé. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'association AMIF, l'association des étudiants maliens d'Île-de-France.
Je vous en prie, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Donc, je souhaite une bonne réussite à tous les étudiants qui viennent de commencer.
Merci à vous deux.
Merci.
Alors, on dit quoi ?
Elidia Deblaf a souhaité nous laisser un message cette semaine. Pour lui, il est important de saisir les opportunités de la vie. Toutes celles qui se présentent, on l'écoute.
Je m'appelle Elidia Deblaf. Je vais vous parler de la clé de nos quêtes, que nous soyons jeunes. Que nous soyons vieux, hommes ou femmes, malades ou en bonne santé, diplômés ou pas, célibataires ou pas, nous cherchons tous quelque chose. Et à y regarder bien, toutes nos quêtes conduisent à la même chose. Et cette chose porte un nom, c'est l'opportunité. Nous sommes tous à la quête d'une opportunité pour passer d'aujourd'hui à demain dans les meilleures conditions. Finalement, la différence entre ceux qui ont réussi, peu importe le projet, et ceux qui n'ont pas réussi, on parlera pas d'échec, c'est la capacité à identifier l'opportunité, à la saisir à l'instant T, car elle ne se présente pas sous la même forme plus d'une fois. Et comment faire pour que les opportunités se présentent à nous? Il faut soi-même être une opportunité pour les autres. Et n'oubliez pas, vous n'aurez jamais une seconde chance de laisser une première bonne impression.
C'était le message d'Elijah Deblat. Et si vous aussi vous souhaitez partager avec nous votre point de vue, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter au 33 647 740 742.
Yeah, boy. Ladies and gentlemen, c'est Clayton Hamilton.
Place à la découverte musicale de cette semaine avec Clayton Hamilton, le jeune Sénégalais, nous livre l'un de ses derniers sons, Nobatumala, en Wolof, Je ne t'aime plus, et c'est mon coup de cœur de cette semaine. Je vous laisse découvrir.
Salut, Diarra, c'est Clayton Hamilton. J'espère que vous allez bien. Je passe un petit coucou à tous les auditeurs. Voilà, je t'ai envoyé mon morceau qui s'appelle Nobatumala, en Wolof, qui veut dire Je ne t'aime plus. Bon, j'ai abordé ce morceau avec beaucoup d'ironie, parce que le thème est quand même un peu gore. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute sur RFI.
Iri iri, what you berry berry, jarul forcé, tu nous mets maintenant supporté, yeah, faut pas insister, je
je finirai par te détester. Yeah, ça sonne, non, on l'a pas censé. Déjà, fignard, on peut me accompagner, bah, pareil. Ses réputations laissent à désirer. Ah, yeah. Young, y'a que ça m'a l'air, non, j'ai allumé. Ma, y'a ou de fouillon, l'air, non, mais tu le connais. De famille, de n'est rien, y'a biri, biri. Watch your birdie birdie. I need nobody. No more to my life. Yang you damn to some guy. No more to my life. Little mood on my body. No more to my life. Then you June boy. No more to my life. I need nobody. No more to my life. Yang you damn to some guy. No more to my life. Little mood on my body. No more to my life. Then you June boy. No more to my life. Yeah, you waste of time, yo. Se you connais rumor, no. Do my lame nagu. Nah, no but to my land, no. Tiggle a ding guitaru. Why's a mahol binango kuno? Yidi Allah will see so. No, we see so. Then the death man up me day fan. Soon you relation back, mum boy do them fan. Kel be my bugger, hamaliki do cheat len. Someone don't mum, you know, Bible said. Then the death man up me day fan. Soon you relation back, mum boy do them fan. Kel be my bugger, hamaliki do cheat len. Someone don't mum, you know, Bible said. I need nobody, no but to my life. Yeah, you damn to some guy, no but to my life. Little mood don't ring my body, no but to my life. Then the June boy, no but to my life. I need nobody, no but to my life. Yeah, you damn to some guy, no but to my life. Little mood don't ring my body, no but to my life. Then the June boy, no but to my life.
C'était Clayton Hamilton, no but to my life.
Alors, on dit quoi? Jaranjay.
Et place à la Minute Culture de notre chère Anna. Coucou Anna.
Hello Diara.
Alors, de quoi allons-nous parler cette semaine?
Alors cette semaine, rentrée littéraire pour nos chers auditeurs, puisque nous allons parler de la sortie du deuxième recueil de poèmes de Guillaume Mao, cet auteur franco-ivoirien dont nous avions déjà parlé il y a quelques mois de cela d'ailleurs, avec son premier recueil dans la spéciale poésie. Irrévérencieux, ce titre à double sens est celui d'une poésie protéiforme qui offre au lecteur une galerie stupéfiante d'exploration et de voyage dans le temps, jonglant entre les univers sans jamais s'enraciner dans une succession frénétique d'images, de parfums et de lumières kaléidoscopiques. D'un poème à l'autre, le texte s'étend, se contracte, se déforme au gré des pages. Guillaume Mao est irrévérencieux. Il n'hésite pas à s'élever vers les cimes d'une poésie classique parfaitement maîtrisée, avant d'en abattre avec jouissance le temple tout entier. Débarrassé du vernis précieux qui rend parfois la poésie distante, sa voix en devient intime, authentique. Sa poésie est celle de lire, explorant les profondeurs les plus troubles de l'âme humaine. C'est aussi celle des cieux, qui célèbre l'amour, la volonté de s'élever pour atteindre quelque chose de plus grand, qu'il soit spirituel, artistique ou simplement l'émotion ressentie devant les espiègles petites mains d'un bébé au sceptre vibrant. Alors, dirais-je, est-ce que ça vous donne envie de vous procurer ce nouveau recueil de poèmes?
Ah oui, Anna, merci beaucoup pour cette recommandation.
Eh bien, vous aussi, chers auditeurs, je vous invite à vous le procurer le plus rapidement possible sur Internet.
À bientôt. Et c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Samedi prochain, on se retrouve même heure, même fréquence sur RFI. Et merci à toute l'équipe de notre émission, Beverly, Mariam, Dibril, Guillaume et Awa. Salut, Ubno Nuha Gongol, à bientôt.